Vous écoutez, on lit pour vous.
N'enterrez pas la pénurie de main-d'œuvre trop vite. Un texte d'Éric Desrosiers paru le 12 février 2025 dans Le Devoir. On ne doit pas se laisser tromper par la dernière augmentation du chômage. Le Québec n'en a pas fini avec sa pénurie de main-d'œuvre et devra bien prendre garde d'aggraver sa situation durant le conflit commercial avec les États-Unis. Les apparences sont parfois trompeuses. Cela a été le cas notamment du marché de l'emploi québécois en 2024, rapporte l'Institut du Québec, IDQ, dans un bilan 2024 de l'emploi au Québec. À première vue, la dernière année a été plutôt difficile, avec une création nette d'emplois, plus 71 000, la plus faible depuis la pandémie, alors que la hausse exceptionnelle de l'immigration temporaire a fait fortement augmenter la population des 15 ans et plus, plus 195 300. Cela a eu pour effet de faire augmenter le taux de chômage de 4,7 % à 5,6 % et de réduire le nombre de postes vacants à son plus bas niveau depuis 2018, 119 175. De là à penser que le problème de pénurie de main-d'œuvre sera bientôt une chose du passé au Québec, il n'y a qu'un pas qu'il faut bien se garder de franchir, prévient l'IDQ. C'est que la dernière remontée du chômage a principalement été observée chez les jeunes de 15 à 24 ans, de 8,1 % à 12,1 % en juillet, avant de revenir à 8,9 % en décembre, et chez les immigrants temporaires, trois fois plus élevé, à 11,7 % que chez les natifs à 4,1 % que ces derniers soient travailleurs, étudiants étrangers ou demandeurs d'asile. C'est-à-dire de nouveaux travailleurs à la recherche d'un premier emploi. À l'inverse, la proportion de travailleurs qui occupaient déjà un emploi et qui se sont retrouvés au chômage, taux de cessation d'emploi, n'a pas bougé durant l'année à 1,9 %. Ce que cela montre, explique Emna Abraham, présidente directrice générale de l'IDQ, c'est des employeurs que les circonstances économiques rendent moins friands de nouvelles embauches, mais qui ne sont pas fous. Ils se rappellent comment il a été difficile pour eux de pourvoir certains postes les dernières années. Alors ils choisissent, quand ils le peuvent, de garder les employés qu'ils ont, quitte à gruger dans leur marge de profit. Ce que les moyennes québécoises cachent aussi, c'est la différence entre la réalité de la grande région de Montréal où se concentre encore et toujours l'immigration et celle de plusieurs autres régions où les travailleurs disponibles se font toujours aussi rares. À preuve, le ratio de chômeurs par poste vacant, qui est de 2,7 à Montréal, de 3,7 dans Lanaudière et de 3,9 à Laval, mais deux ou trois fois moindre à Québec, 1,7, en Mauricie et dans le centre du Québec, 1,5, en Estrie et en Chaudière-Appalaches, 1,2, sinon plus bas encore en Abitibi-Témiscamingue, 0,8, et sur la Côte-Nord, 0,7. L'arrivée de Donald Trump. Il y aurait normalement eu lieu de s'attendre à ce que le desserrement de la politique monétaire de la Banque du Canada redynamise le marché de l'emploi et ramène graduellement la question de la rareté de main-d'œuvre à mesure qu'allait se faire sentir l'annonce de la réduction marquée des niveaux d'immigration au Québec et au Canada. Après tout, le Québec est toujours aux prises avec un phénomène de vieillissement de sa population et une économie peu productive. Mais cela serait sans compter avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et son goût pour les tarifs commerciaux. Les éventuels tarifs douaniers ne seront pas dommageables pour l'économie et l'emploi seulement lorsqu'ils s'abattront sur les exportations des secteurs directement visés et sur toutes les autres entreprises de biens et de services qui les entourent de proche ou de loin, explique Emna Abraham. Le climat d'incertitude qu'ils instillent est suffisant pour faire hésiter les entreprises qui auraient voulu investir ou embaucher. Cette nouvelle tuile pourrait contraindre les employeurs qui avaient choisi de garder leur main-d'œuvre envers et contre tout de les laisser partir. Dans ce cas, il sera plus important que jamais que les gouvernements viennent en aide aux entreprises et aux travailleurs touchés. il faut s'attendre à ce que cette aide prenne notamment la forme d'un encouragement à l'investissement et à l'automatisation des entreprises en même temps qu'à la formation et à la requalification des travailleurs, observe Emna Braham. Mais cette fois, contrairement à d'autres crises, l'objectif ne devra pas être de replacer ces travailleurs dans d'autres secteurs plus porteurs, parce qu'il sera généralement question de secteurs, de l'aluminium, de la fabrication, de pointe, où l'on voudra que les travailleurs reviennent le plus vite possible pour leur permettre de poursuivre leur développement. C'était « N'enterrez pas la pénurie de main-d'œuvre trop vite », un texte d'Éric Desrosiers paru le 12 février 2025 dans Le Devoir.
Santé. Comment faire bon usage des antibiotiques et réduire l'antibiorésistance? Un texte commandité paru le 24 février 2025 dans La Presse. Otite. Infections urinaires, pneumonie, infections transmissibles sexuellement et par le sang causées par des bactéries. Plusieurs infections courantes peuvent être traitées au moyen d'antibiotiques. Ces médicaments agissent en tuant les bactéries ou en empêchant leur multiplication dans l'organisme. Pourquoi certaines bactéries résistent-elles malgré tout de façon accrue à de tels produits? Quels sont les risques de ce qu'on appelle l'antibiorésistance sur la santé des humains et des animaux? Voici ce qu'il faut savoir pour faire un bon usage des antibiotiques. L'antibiorésistance est un problème de santé publique mondiale qui n'épargne pas le Québec. Le phénomène se produit lorsqu'un antibiotique ne réussit plus à tuer certaines bactéries ou à en freiner la croissance. Or, de plus en plus de souches bactériennes résistent à l'action d'une ou de plusieurs classes d'antibiotiques. L'antibiorésistance présente plusieurs risques pour la santé. Les infections sont plus longues et difficiles à traiter, ce qui entraîne des répercussions sur la santé et la qualité de vie des personnes atteintes ainsi que sur le coût des soins. Les infections causées par des bactéries multirésistantes sont associées à des risques accrus de complications ou d'hospitalisation, de même qu'à une hausse de la mortalité. Les antibiotiques, c'est à prendre au sérieux. L'utilisation inappropriée d'antibiotiques chez l'humain, tout comme chez les animaux, contribue à l'augmentation de l'antibiorésistance. C'est pourquoi la meilleure façon de préserver l'efficacité de ces médicaments à travers le temps est d'en faire un bon usage. Voilà autant de bonnes raisons de bien respecter les directives quand vient le temps de suivre un tel traitement. Antibiotiques, quatre bons comportements à adopter. 1. Utilisez-les seulement si c'est nécessaire. Les professionnels de la santé sont les personnes les mieux placées pour savoir si la prise d'antibiotiques est appropriée en fonction de votre condition médicale. Ces derniers sont inutiles pour traiter les infections virales, comme un rhume, une grippe ou la COVID-19. C'est la même chose pour les infections qui sont causées par des champignons. Pensons ici à une infection vaginale à levure ou à une mycose des ongles. D'autres types de médicaments peuvent être utilisés pour traiter certaines infections virales et des infections fongiques. Pour préserver l'efficacité des antibiotiques dans le temps, tout comme leur usage sécuritaire, il importe de respecter les consignes des professionnels de la santé en matière de prévention et de traitement des infections. De façon générale, il est préférable de privilégier des mesures de prévention des infections, notamment la vaccination, pour minimiser la nécessité de recourir à des antibiotiques. 2. Respecter leur posologie. Lorsque des antibiotiques vous sont prescrits par un professionnel de la santé, prenez-les selon la posologie prévue. Respectez la dose prescrite, la fréquence de prise du médicament dans la journée, ainsi que la durée du traitement, et ce, même si vous allez mieux ou que certaines circonstances s'y prêtent moins, lors d'un voyage, par exemple. 3. Consultez toujours un professionnel de la santé. Une nouvelle infection fait son apparition, même si les symptômes vous sont familiers, ne prenez pas d'antibiotiques qui vous ont été prescrits par le passé. Avant d'entreprendre un nouveau traitement, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé. Dans le même esprit, n'utilisez pas d'antibiotiques destinés à une autre personne et ne partagez pas ceux qui vous ont été prescrits. 4. Débarrassez-vous-en de manière sécuritaire. Rapportez dans une pharmacie les antibiotiques inutilisés comme les crèmes, les onguents ou les gouttes qu'il reste à la fin d'un traitement. Faites de même si vous devez interrompre un traitement en raison d'une allergie aux médicaments, par exemple, ou que vous êtes en possession d'antibiotiques périmés. Ceux-ci doivent en effet être éliminés de façon sécuritaire dans une pharmacie. Pour protéger l'environnement et réduire l'antibiorésistance, de tels produits ne devraient jamais être jetés aux ordures dans un lavabo ou dans une toilette. Pensez à vos animaux domestiques. Les mêmes précautions s'imposent si Pitou ou Minou est affecté par une infection bactérienne. Consultez un médecin vétérinaire avant de commencer un traitement, et lorsque ce professionnel prescrit des antibiotiques à votre animal, suivez ses directives quant au dosage, à la fréquence de prise dans une journée, à la méthode d'administration et à la durée de traitement. Ne cessez pas l'administration des antibiotiques en cours de traitement, et ce, même si votre animal se porte mieux. Renseignez-vous auprès de votre clinique vétérinaire si vous avez oublié d'administrer une dose à votre animal et rapportez-y tout surplus de médicaments à la fin du traitement. L'antibiotique ne doit pas être conservé pour un prochain traitement ou administré à un animal autre que celui pour lequel il a été prescrit. Ces précautions sont essentielles pour protéger à la fois la santé de votre animal et celle des personnes qui le côtoient. C'était « Santé, comment faire bon usage des antibiotiques et réduire l'antibiorésistance », un texte commandité paru le 24 février 2025 dans La Presse.
Les dauphins du fentanyl. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 10 mars 2025 dans Le Devoir. Sur les plages du Texas, 6 dauphins se sont échoués. Les analyses de leurs tissus ont révélé la présence de fentanyl. Des chercheurs ont étudié 89 dauphins du golfe du Mexique. Le golfe des Amériques, disent ceux dont la masculinité fragile tente de se rassurer. Que révèlent ces analyses? Qu'un dauphin sur 5 contient du fentanyl et que le tiers a absorbé non seulement du fentanyl, mais aussi du carisoprodol, un relaxant musculaire, ou du méprobamate, un anxiolytique. La vie sous l'eau est désormais à la mesure de celle sur Terre, suffocante. Loin du Texas, au bout de l'autoroute 55 qui conduit à Stanstead, autrement dit à un jet de pierre de la frontière avec le Vermont, les pales des hélicoptères militaires se font entendre plus que jamais. Dans le bleu du ciel, leurs mauvais augures noirs se profilent en ombre fuyante sur le couvert de neige à la limite des deux pays. De telles patrouilles n'ont jamais été aussi fréquentes. Pourtant, rien n'a changé sur le terrain des vaches, comme le confirment des habitués de cette ligne de démarcation. Et aucun dauphin gorgé de fentanyl n'a été retrouvé échoué dans les bancs de neige. On sait fort bien que c'est folie de croire à la soi-disant déferlante de fentanyl aux États-Unis depuis le Canada. Un simple prétexte parmi d'autres utilisé par Washington pour faire virevolter l'économie canadienne, tandis qu'il fait par ailleurs perdre pied au monde entier. Combien de fois ces dernières années la question des frontières a-t-elle été dopée pour présider, au sein des États, aux ébats politiques les plus grossiers? On se demandera encore longtemps comment le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a pu s'empresser fin janvier de tomber dans ce panneau en donnant raison au gouvernement Trump. L'aspirant premier ministre clamait, dans un numéro douteux, qu'on a été de mauvais voisins. Il allait jusqu'à affirmer que sur la question du fentanyl et de l'immigration, les prétentions trumpistes étaient fondées. Dans un monde où le diable est aux vaches, comment pouvait-il lui sembler avantageux de donner raison à quelqu'un qui montre un front de bœuf? C'est en des temps difficiles que se révèlent d'ordinaire les vraies capacités politiques. À Newport, à quelques kilomètres de Stansted, se trouvait jadis l'hôpital le plus proche des environs. Bien des femmes du Québec se rendaient là-bas, à la pointe sud du lac Memphrémagogue, pour accoucher. Dans la douleur qui préside à l'enfantement, qui se serait soucié, en pareille circonstance, de questions de nationalité? De tout temps, la puissance de la vie qui demande à naître n'a que faire des passeports et des identités plaquées. Cette proximité des uns et des autres a fait que, dans les environs de Stansted, bien des Québécois de plus de 50 ans possèdent aujourd'hui la double citoyenneté. Ce qui permet, par exemple, de rencontrer des douaniers américains qui vivent au Canada ou encore des Québécois qui, chaque jour, travaillent aux États-Unis. C'est par ailleurs de l'eau de Stansted que boivent, tout juste de l'autre côté de la frontière, les citoyens de Derby. Il est arrivé par le passé que des efforts concertés réunissent les citoyens des deux côtés de la frontière. Ainsi, en 2012, des voix nombreuses se sont élevées, de part et d'autre de la frontière, pour repousser un projet d'éolienne mal planifié qui mettait en danger la population frontalière autant que son paysage. Depuis des années, des fêtes du voisinage se sont déroulées entre Stansted et Derby. Sur la ligne de la frontière, les gens se retrouvaient pour manger, danser et, bien sûr, discuter, tout en conservant une distance prudente sur la foi de la ligne de démarcation tracée au sol en 1846. Des événements pareils ont le grand mérite de rappeler que les frontières, quoi qu'on en dise, s'avèrent toujours perméables à l'humanisme. Faudrait-il organiser de nouvelles fêtes pour offrir aux Américains, tout le long de la frontière, des œufs brouillés? Cela pourrait peut-être faire prendre conscience à Washington que le fait de pouvoir manger à prix raisonnable devrait passer avant l'imposition de modalités hallucinées qui permettent tout au plus d'engraisser encore davantage des milliardaires. Un heureux symbole de cette coexistence, dans ce qu'elle a de plus beau, se trouve dans la bibliothèque Haskell, un élégant bâtiment fait de granit gris, de briques ocre et d'ardoises vertes. Elle est construite à cheval sur la frontière. Sa salle de lecture, comme sa salle de concert, se trouve coupée en deux par la frontière. Une ligne tracée sur le plancher du bâtiment le rappelle. Les citoyens des deux pays entrent par la même porte et se retrouvent là, en quelque sorte, sous l'arche unificatrice de la culture. Récemment, on y présentait Une langue universelle, un film remarquable de Matthew Rankin, intelligemment consacré à la question des identités, lesquelles sont forcément toujours mouvantes. En visite ces jours derniers à la bibliothèque Haskell, la secrétaire d'État à la sécurité intérieure des États-Unis, Kristi Noem, s'est beaucoup fait remarquer, sa notoriété précédant son arrivée. À titre de gouverneur du Dakota du Sud, elle était considérée, vous vous en souvenez, comme l'une des principales favorites pour être la colistière de Trump, un poste finalement occupé par J.D. Vance. À l'intérieur de la bibliothèque, Kristi Noem s'est mise à jouer à une marelle d'un nouveau genre. Elle a sautillé d'un côté puis de l'autre de la ligne du plancher. D'un côté, elle clamait « USA number one », puis ses pieds du côté canadien « 51st state ». Ce petit jeu s'est répété, au point où la responsable de la bibliothèque a déclaré que la représentante de Trump manquait du respect le plus élémentaire. Il faut dire que les habits de la grossièreté sont désormais portés avec fierté. Voici venus des gens qui poussent l'humanisme à s'échouer comme des dauphins contaminés. C'était « Les dauphins du fentanyl ». Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 10 mars 2025 dans Le Devoir.
Écrasé par la charge mentale, télévisuelle, un texte de Hugo Dumas, paru le 4 mars 2024 dans la presse. Vous n'êtes pas seul à ressentir cette pression sociale de tout voir et de connaître toutes les émissions qui font le buzz. Dans votre enregistreur, les émissions à rattraper plus tard bouffent tout l'espace disponible. Faute de temps, vous perdez le fil des intrigues de vos téléromans favoris et vous angoissez. Sans compter toute l'offre des plateformes numériques d'ici et d'ailleurs, qui vous bombarde de séries en primeur, toutes incontournables, évidemment. Vous êtes loin d'être les seuls à expérimenter ce que les médias américains appellent de la « content fatigue », soit de la lassitude devant autant de nouveaux contenus audiovisuels. Le journal Le Monde parle même de charge mentale culturelle, un sentiment d'écrasement et de saturation qui se manifeste quand l'abondance de séries nous paralyse ou nous assomme au moment de choisir un truc à visionner. Selon la firme Nielsen, qui mesure l'écoute de la télévision aux États-Unis, environ 20% des clients qui cherchent une émission à regarder se découragent et finissent par abandonner le projet. Il y a trop de stocks à éplucher, trop d'émissions éparpillées sur une trop grande quantité de plateformes. Bref, c'est trop compliqué. Ces téléspectateurs accablés, 1 sur 5 quand même, optent pour une autre activité et ferment leur appareil. Pas de Netflix et chill ce soir. En 2023, un téléphage passait plus de 10 minutes à explorer le menu des Disney+, Crave, etc., avant de se décider. En 2019, le temps de magasinage tournait autour de 7 minutes. Cette fatigue décisionnelle est bien réelle et provoque une hausse des visionnements nostalgiques. Incapable de repêcher un seul titre, dans cet océan de nouveautés, les téléspectateurs étourdis retournent à des émissions qu'ils connaissent déjà et qu'ils ont adorées dans le passé. Un marathon de Gilmore Girls, de Gossip Girl, de Rumeurs, de How I Met Your Mother ou de Friends, par exemple. Dans le doute et l'incertitude, on revient à des valeurs sûres qui ne décevront pas. Plutôt que de s'exposer à de nouveaux univers plus complexes, on revisite ce qui nous réconforte, on reste donc dans nos pantoufles. Toujours selon Nielsen, 60% des séries consommées sur les plateformes ne sont pas des exclusivités numériques comme The Diplomat ou Squid Game, mais bien de vieilles séries qui ont été achetées à des chaînes de télévision conventionnelles comme Grey's Anatomy ou Suits. Autre effet notable de ce sentiment d'épuisement collectif, la montée de la Just OK TV, la télévision juste correcte, sans plus. Pensez à The Lincoln Lawyer ou à The Night Agent. Des séries bien faites, divertissantes, loin d'être mémorables, comme à peu près tout le répertoire de Harlan Coben. Aussitôt vues, aussitôt oubliées. On classe ces séries dans la catégorie de la mid-TV, selon le New York Times. De la télé moyenne d'entrée de gamme. Pas surprenante ni ennuyante. Mais rien à voir avec les séries prestigieuses comme Shogun ou Succession, qui rafle tous les prix disponibles. Au Québec, la lassitude décisionnelle nous frappe 2 fois plus fort, on dirait bien. En plus des Crave, Illico Plus et Extra de Tout.tv, les services américains Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus ou Apple TV nous courtisent avec leur impressionnant catalogue garni des séries doublées en français. La barrière de la langue protège notre marché bien moins qu'avant. La multiplication des abonnements contribue aussi au sentiment de découragement actuel. On regarde la série qui nous intéresse, on se désabonne, on revient quand un autre titre nous plaît, on oublie de se désabonner, on se fâche quand la facture arrive automatiquement et on recommence le même manège tous les 6 mois sans apprendre de nos erreurs. Au bout du compte, on paie très cher pour des services que l'on utilise très peu. Le calendrier de diffusion extrêmement variable de ces plateformes numériques a également de quoi rebuter le téléfilm le plus investi. Il y a 10 ans, boum, on nous offrait la série en entier à dévorer en un week-end de gavage. Aujourd'hui, chacun y va de sa propre stratégie de mise en ligne. 3 épisodes pour commencer, le reste dans 2 mois. La première moitié de la saison ici, le reste quand ça nous tente. Oui, ça peut devenir mélangeant et rebutant. C'est peut-être ce qui explique le retour de la formule à 1 épisode par semaine qui prolonge la durée des abonnements et qui se rapproche du modèle familier de la télé traditionnelle si simple à retenir. Notre capacité d'attention ratatine dans cet environnement surchargé. Si c'est le moindrement plate, bye-bye, on va voir ailleurs où on tire la plug. D'où la résurgence des mini-séries de 6 ou 8 épisodes bouclés. On ne veut surtout pas donner l'impression aux téléspectateurs que l'on alourdit son calendrier. Et ça donne des mini-séries documentaires déclinées en 2 épisodes d'1 heure, comme celle consacrée à l'animateur Jerry Springer sur Netflix. Rendu là, faites-en un film, ciboulette. Règle générale, un fan dévore une série complète en l'espace de 5 jours. Au-delà de cette période, la majorité des gens ne se rendra jamais jusqu'au bout. Quoi? T'as pas fini de regarder Silo? Non, mon disque dur interne déborde. C'est mauvais pour ma santé mentale. Je ne sais plus où donner de la tête. Je préfère retourner opérer avec la docteure Gray. Partez ici la chanson Chasing Cars de Snow Patrol. Merci. C'était Écrasé par la charge mentale télévisuelle, un texte de Hugo Dumas, paru le 4 mars 2024 dans la presse.